Également 1,44% maintenant à 136,04 yens et recule de 0,10% contre la livre sterling à 0,6938, moins 0,19% à 1 franc suisse 56,67. Rapidement sur les marchés de l'or, à Paris, le lingot reste inchangé à 10,690, le Napoléon recule de 30 centimes à 60,70 €, et à Londres, l'once de métal fin reprend 1,80 $ à 422,80. Je rappelle que le CAC 40, lui, est en petite progression maintenant de 0,17% à 3,598 points. C'est Antoine Verlin à la Bourse de Paris pour France Inter.
La bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute, ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
On termine avec l'arrivée du Quintet Plus à Vincennes, 5, 2, 6, 18 et 3. Vous écoutez France Inter, il est 14h04, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet.
Bonjour, aujourd'hui avec l'historien américain Robert Paxton, l'armée de Vichy.
Cette armée nouvelle, petite par le nombre, nous en ferons un vivant modèle de qualité. Elle maintiendra le culte de la patrie au sein de la nation régénérée. Général Hunziker, septembre 1940.
D'histoire. En 1940, les plus hautes autorités militaires françaises étaient formelles, la France avait la meilleure armée du monde. Sur le papier en tout cas, elle était en mesure de faire face à l'armée allemande. Et l'on comprend la stupéfaction des Français lorsqu'en mai et juin 1940, ils ont vu les divisions blindées allemandes infliger en 6 semaines à l'armée française une des plus grandes défaites de son histoire. Une débâcle tellement inattendue que c'est avec résignation que la plupart des Français ont entendu le nouveau chef de leur gouvernement leur annoncer qu'ils avaient perdu la guerre et que leur armée, qui venait de perdre 100 000 tués et 1 500 000 prisonniers, était vouée désormais à faire de la figuration. Philippe Pétain, le 25 juin 1940.
L'armistice est conclu. Le combat a pris fin. Les conditions auxquelles nous avons dû souscrire sont sévères. Une grande partie de notre territoire va être temporairement occupée. Nos armées devront être démobilisées, notre matériel remis à l'adversaire, nos fortifications rasées, notre flotte désarmée dans nos ports. En Méditerranée, des bases navales seront démilitarisées. Du moins, l'honneur est-il sauf. Nul ne fera usage de nos avions et de notre flotte. Nous gardons les unités terrestres et navales nécessaires au maintien de l'ordre dans la métropole et dans nos colonies. C'est vers l'avenir que désormais nous devons tourner nos efforts. Un ordre nouveau commence.
Robert Paxton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un des plus grands spécialistes de l'histoire de la France sous l'occupation, auteur il y a quelques années d'une remarquable histoire de Vichy, et vous venez de publier chez Talendier l'armée de Vichy, cette armée qu'on a appelée aussi l'armée d'armistice. En fait, tout ce qui restait de l'armée française battue en juin 40, c'est-à-dire pas grand-chose, on vient de l'entendre. L'armistice accepté par Pétain l'avait réduite à très peu de choses.
Oui, en effet, l'armée française est limitée à 100 000 hommes en métropole et 120 000 en Afrique du Nord. C'était dans l'armistice. C'était la décision de Hitler, que Hitler voulait que l'armée française l'aide à maintenir l'ordre en France. Il ne voulait pas s'en charger lui-même.
Il n'y avait pas que les effectifs également. On retire à cette armée tous les moyens modernes de se battre. Vous dites à un moment donné que la cavalerie revenait au fond à ses chevaux.
Oui.
Il n'y avait plus de chars.
Et aux bicyclettes, plus de chars du tout. Quelques autres mitrailleuses, une douzaine. Mmh. Mais l'armée 6 enlevait de l'armée française tout moyen de se battre. Sa fonction, selon l'armée 6, était de maintenir l'ordre dans le pays et d'éviter que les alliés prennent possession des colonies.
Et très peu d'avions. Il restait quand même une flotte, c'était pratiquement ce qui est le plus important à l'époque, oui, dans l'armée française, mais elle était coincée dans tous ses ports.
Oui, mais la flotte française, c'était extraordinaire, c'était la deuxième flotte du monde, mais c'était démilitarisé. dans les ports et donc incapables d'agir.
Ce qui est étonnant, Robert Paxton, c'est que au fond, ces conditions très dures ont été acceptées, vous le dites, par la majorité des officiers. Pourquoi ?
Eh bien, je crois que la plupart des officiers ne croyaient pas aux alternatifs. Mmh. Le premier alternatif aurait été d'aller s'installer en Afrique du Nord.
Ou de suivre le général de Gaulle aussi. Mais il n'y a pratiquement aucun d'entre eux.
À peu près la même chose, continuer la guerre, en d'autres termes. Mais par là, on laisserait toute la France à l'occupation. On n'aurait pas la zone dite libre.
Et puis surtout, on désobéissait au chef de l'État, qui en plus était un militaire, le maréchal Pétain.
Absolument, le maréchal Pétain, en se souvenant de la Première Guerre mondiale, était convaincu qu'une autre guerre longue sur le sol français serait la fin de la société française. Il voulait la paix.
Et puis de Gaulle désobéissait, hein, ce qui évidemment n'est pas recommandé en principe dans l'armée. Il a même été condamné à mort par Vichy, vous le rappelez, Robert Paxton. Puis il y a une affaire quand même qui est très importante, c'est que quelques jours à peine plus d'une semaine après l'armistice, il y a le drame de Merselkébir, la flotte anglaise qui détruit une escadre anglaise qui détruit l'escadre française basée à Merselkébir. Ça fait 1300 tués.
Absolument. Churchill a été terrifié par l'existence de cette flotte démilitarisée dans les ports français. Il comprenait que les Allemands pourraient le prendre à n'importe quel moment. Donc, il a demandé d'abord que les unités navales françaises qui restaient en Afrique du Nord à Merselkébir quittent Merselkébir, soit pour l'Angleterre, soit pour les colonies françaises en Amérique du Nord,
aux Antilles,
ou soit se sabordent. Et l'amiral français, qui avait le commandement, a riposté par la force.
Et les Anglais ont
amené à Jansoul. Et les Anglais ont écrasé ces unités en tuant presque 1300.
Alors ça explique en tout cas l'anglophobie de l'armée française, qui pourtant n'a jamais été germanophile. Hein. Il y a très peu de soldats français qui se sont battus aux côtés des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une unité qui s'appelait la LVF, mais il y a eu très très peu de soldats qui l'ont.
La Légion des volontaires contre le bolchevisme, qui était minuscule, c'était très mal vu par l'armée. Mais l'armée voulait rester française, c'est-à-dire en dehors de la lutte. Et ce qui restait de l'armée française ne voulait pas venir ni le jouet des alliés, ni le jouet des Allemands.
Je propose, Robert Paxton, d'écouter l'état d'esprit des officiers de cette armée de Vichy avec quelques textes que l'on trouve dans votre livre et sélectionnés par Stéphanie Duncan.
Oui, c'est un sentiment mélangé, on peut dire de soumission. Nous devons accepter notre infériorité pendant un temps, écrit en juillet 40 le général Laure dans son journal. Un engourdissement des premiers mois qui sera suivi malgré tout d'un désir de revanche, même si pour beaucoup il va tarder à se manifester. Le général Végan, par exemple, l'ex-ministre de la Défense nationale de Pétain, en février 41, déclare à ses hommes « Cadres et troupes devront puiser l'énergie nécessaire dans l'amour de leur pays, leur esprit de sacrifice et leur désir de revanche. » Alors l'armée de Vichy, en effet, reste germanophobe. L'allemand est toujours le Bosch, mais elle a un autre ennemi qu'elle déteste autant, sinon plus, l'Angleterre. C'est bien ce que dit le général Ollery en juin 42 dans une conversation privée. « Notre armée, dit-il, est à la fois anglophobe et germanophobe. L'anglophobie chez les coloniaux et la germanophobie chez les métropolitains. » Alors, une anglophobie traditionnelle, hein, mais exacerbée par Merselkébir, vous l'avez dit. Donc, le 16 juillet 40, 4 jours après Merselkébir, le général Hunziker n'hésite pas à le dire. Aujourd'hui, la France se trouve pratiquement en guerre avec le même ennemi que son adversaire vainqueur. Beaucoup sont persuadés que l'Angleterre ne songe qu'à voler à la France son empire colonial, comme le général Dance qui déclare à ses officiers « Quant aux Britanniques, vous avez retrouvé en eux nos ennemis séculaires qui ne pensent qu'à une France sans marine, sans colonie, sans tradition militaire. Ils prétendent nous ramener tout ce dont nous avons failli mourir, la politique démocratico-maçonnique et la finance judéo-saxonne. » Il y a quand même un peu de politique aussi là-dedans. Alors l'armée de Vichy n'aime pas non plus les militaires qui ont quitté la France pour continuer le combat. Vous connaissez ceux qui sont passés de leur côté, déclare le général Dance. Des tarés, des endettés, des ambitieux, des aigris, des mal mariés ou bien des pourvus de maîtresses. Un esprit moralisateur qui est très fort dans cette armée d'armistice, tout comme dans les discours de Pétain. Alors, au lieu de se battre, il faut expier non pas les erreurs militaires qui ont participé de la défaite, mais celles de la Troisième République. Ce n'est pas seulement l'armée qui a été battue sur les champs de bataille, c'est la nation tout entière qui s'est affaissée, explique le général Dens. Elle a vécu pendant 20 ans sans idéal, ne recherchant que des satisfactions matérielles. Elle a renié la grande loi de l'effort et du travail. En défaut d'un rôle militaire, évidemment, l'armée de Vichy entend bien jouer un rôle moral, sinon politique. En tant qu'officiers généraux, nous avons le droit de nous compter parmi les élites de la nation, déclare le général Laure en juillet 40. À ce titre, nous ne saurions plus nous retrancher dans le silence de la grande muette, car c'est notre chef, donc le maréchal Pétain, qui est au pouvoir.
Et oui, on a l'impression, en lisant, en entendant ces textes qu'on retrouve dans votre livre, Robert Paxton, qu'au fond, l'armée ne fait plus la guerre, mais elle fait beaucoup la morale.
Absolument, mais il y avait deux conceptions de la revanche. Pour le général de Gaulle, c'était de continuer le combat. Mais pour le maréchal Pétain et les officiers qui le suivaient, cette manière de faire la revanche, c'est revenir à la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier qu'on était hanté, c'est 20 ans plus tard seulement, on était hanté par les tranchées, hanté par la Première Guerre. Refaire ça, ça serait la fin de la France. Donc, l'idée de la revanche, c'est de sortir de la guerre, de rendre la France plus forte par des changements. On allait faire un régime autoritaire, on aurait, par quelques leçons des pays autoritaires, on allait revenir aux valeurs d'avant la Troisième République, et ça, la revanche viendrait automatiquement sans refaire la guerre.
Alors cette revanche, on la trouve peut-être dans certaines organisations, cet esprit de revanche, hein, dans certaines organisations parallèles dont vous parlez aussi, qui sont dirigées par des officiers, les chantiers de jeunesse, dirigés par le général de la Porte du Theil, ou encore des écoles des cadres, comme celle que dirigeait le commandant Dunoyer de Segonzac.
L'école de la Faulconnière est dirigée par le chef Dunoyer de Segonzac, qui s'acquitte de sa fonction avec une conscience, une âme, un dévouement qui suscite l'admiration. Et c'est pourquoi, monsieur de Segonzac, nous serions infiniment heureux si vous vouliez bien nous confier ce que vous ressentez en cette minute, tandis que vos équipes retournent au travail en chantant allègrement des marches de chenille.
Les garçons qui vont partir de là, je crois que ce sont de vrais chefs. Des chefs pour de bon et capables d'aller comme ils viennent de s'y engager jusqu'à la mort, s'il le faut, pour défendre leur idéal. Et je pense à tous les jeunes de France qui ont en eux cet idéal. Eh bien, je leur dis, venez, et nous tâcherons de faire du bon travail.
Que nos jeunes réalisent la tâche qui leur revient aujourd'hui, qu'ils remplissent leurs devoirs, qu'ils soient dignes de l'espoir que nous plaçons en eux, ce n'est pas seulement le vœu du chef Dunoyer de Segonzac, c'est celui de tous les Français.
Chacun de nous fera sa tâche, et nos enfants plus tard feront pareil. Nos couleurs pourront flotter sans tâche, amis, c'est l'heure du réveil. Notre idéal doit nous conduire, notre avenir se trouve entre nos mains. Soyons fiers d'avoir à le construire, bâtissons la France de demain.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'armée de Vichy avec Robert Paxton.
Et c'était André Dassary, une chanson de 1941, Semons le grain de la lumière. Elle était tout à fait faite pour ces écoles des cadres dont vous parlez, ou encore les chantiers de jeunesse. À quoi ça servait ces écoles des cadres dont on a entendu un reportage, Robert Paxton?
Alors l'idée c'était de revenir sur les erreurs prétendue de la Troisième République, et au lieu d'avoir une société démocratique qui était, à leur avis, faible, on aurait avoir une société autoritaire où les vrais chefs étaient à la tête de toutes les organisations et les autres apprenaient à suivre les ordres, à être disciplinés. Donc on allait repenser toute la société en formant les chefs et en persuadant les autres à être des disciples.
Mais des chefs, pourquoi? Pour refaire la guerre, pour que la France prenne sa revanche. Justement, quel lien avec l'armée? Parce qu'elles sont dirigées par des militaires.
Oui, ils sont dirigés par des militaires. Mais c'est que l'armée, de sa nature, est douée pour ce genre de choses. Donc, on allait militariser la société. Et comme ça, on pourrait peut-être prendre la revanche sur l'Allemagne dans 20 ans ou 30 ans. Mais pour l'instant, on allait maintenir l'ordre. On allait faire cesser les grèves, on allait faire cesser les contestations.
Avec des officiers qui étaient donc des maîtres d'école, en quelque sorte, mais alors qu'on trouve aussi très présents partout, au plus haut niveau de l'administration et de l'État. Beaucoup de ministres étaient officiers, étaient des généraux ou des amiraux, des préfets, il y avait des magistrats, ils étaient un peu partout. L'armée était très présente.
Oui, mais pour avoir une armée de 100 000 hommes, et on était obligé de limoger la plupart des officiers.
Donc on les recasait
partout, il ne faut pas exagérer. C'est pas tous les préfets, mais quelques-uns et quelques ministres. Et c'était très, très marqué par rapport aux traditions d'avant.
Et parmi eux, il y avait beaucoup d'amiraux, d'ailleurs au point, je crois qu'on appelait Vichy la SPA, la Société Protectrice des Amiraux.
Hein. Oui.
Alors parmi eux, il y avait évidemment le plus célèbre d'entre eux, l'amiral Darlan, qui le 31 décembre 1941 était à la fois chef du gouvernement et ministre de la guerre.
À l'occasion du jour de l'an, j'adresse mes voeux affectueux au personnel des armées de terre, de mer et de l'air. Au nom du maréchal et au nom du gouvernement, je les remercie des preuves nombreuses de bravoure, de patriotisme, de discipline qu'ils ont données au cours de l'année 1941. Je félicite de nouveau l'armée du Levant. Elle a magnifiquement combattu l'ennemi, bien supérieur en nombre, qui, avec l'aide de Français égarés par des prêtres, attaquait les territoires sous mandat. Je vous ai déjà dit, en prenant mes fonctions, que la défaite n'inclinait au désespoir que des âmes faibles. Gardez donc toute votre confiance. Au seuil de l'année nouvelle, unis au maréchal et au gouvernement par un même espoir, commençons ensemble notre tâche qui est de préparer pour les années à venir une France plus forte et plus heureuse.
Alors c'était l'amiral Darlan présentant ses vœux à l'armée, Robert Paxton, la félicitant aussi d'avoir défendu l'Empire, parce qu'il a évoqué une affaire qui était grave, qui était l'affaire du Levant, l'armée du Levant, commandée par le général Dance, qui a défendu la Syrie et le Liban, qui étaient restés sous l'autorité de Vichy, contre une attaque des Anglais, mais aussi, il parle de traîtres, mais aussi des Français libres.
Oui, absolument. Alors l'affaire de la Syrie a commencé quand les Allemands ont voulu survoler la Syrie pour aider une insurrection en Irak, déjà. L'Irak, déjà, le parti basse. Et dès que les avions allemands se posent sur les aérodromes de la Syrie, les gaullistes et les Anglais commencent à s'inquiéter que l'Allemagne ne va pas en la Syrie. Donc, par mesure de prévention, les Français libres et les Anglais, surtout les Anglais, ont envahi la Syrie. Nous sommes en été 41 et c'était une bataille sanglante et pénible parce qu'il y avait des Français des deux côtés.
Oui. Alors, il y avait aussi des officiers français dans la résistance, vous le rappelez. Il y avait par exemple Henri Frenay, qui était le fondateur du mouvement Combat, qui était un officier. Plus tard, il y aura à la tête du maquis d'Aiglières Tom Morel, qui va être tué. Il y aura le général de Lestrin aussi, hein, qui a dirigé aux côtés de Jean Moulin, et qui a d'ailleurs été arrêté, qui a dirigé justement les forces de la résistance. Il y a eu des résistants quand même.
Absolument, tout à fait. D'abord, quelques-uns de ces officiers, y compris Frenay, croyaient que le maréchal Pétain jouait un double jeu, qu'il espérait secrètement avoir une vraie résistance. Peu à peu, ils se sont rendus compte que c'était pas le cas. Mais quand même, pas tous les officiers suivaient les conseils de prudence.
Il y en a eu quelques-uns aussi qui ont été contactés par les Américains avant le débarquement en Afrique du Nord. Le général Gouraud, par exemple. Donc il y a vraiment une grande ambiguïté dans cette armée française. Elle est prête quand même à accueillir éventuellement un débarquement allié, s'il est suffisamment conséquent.
Oui, mais ce qui presque personne en France, même les résistants, ne voulait un débarquement allié prématuré. Parce que comme ça, les Allemands occuperaient toute la France. Donc on voit les officiers résistants conseiller aux Américains de ne pas venir trop tôt. Donc ils voyaient ça en grand danger. Les Alliés menaçaient la neutralité de l'Empire beaucoup plus que les Allemands. Donc c'est pour ça que Darlan parle de l'ennemi anglais.
C'est ainsi donc que le 8 novembre 1942, les Américains débarquent en Afrique du Nord, ce qui donne l'occasion au général de Gaulle de faire appel aux soldats français qui l'invite à le rejoindre.
Mr. New York. L'Amérique en guerre vous parle. Écoutez bien, voici une nouvelle d'une extrême importance. Un corps expéditionnaire américain a débarqué sur les côtes de l'Afrique du Nord.
Les alliés de la France ont entrepris d'associer l'Afrique du Nord française à la guerre de libération. Ils commencent à y débarquer des forces énormes. Chefs français, soldats, marins, aviateurs, fonctionnaires, colons français d'Afrique du Nord, levez-vous, aidez nos alliés, joignez-vous à eux sans réserve. La France qui combat vous en a dû. Une seule chose compte, le salut de la patrie.
C'était le général de Gaulle au lendemain du débarquement en Afrique du Nord. Là, ça a été un cas de conscience pour l'armée d'armistice, pour l'armée de Vichy. Que faire? Les Américains arrivent, est-ce qu'on passe de leur côté? Au début, d'ailleurs, il y a eu une résistance française. Il y a eu des soldats français qui, conformément aux ordres du maréchal Pétain, ont essayé d'empêcher le débarquement.
La première priorité, selon la manière de voir Vichy, la première priorité, c'était d'éviter que les Allemands occupent le reste de la France. Donc, ils ont observé l'armistice, ils ont défendu l'Empire contre tout, contre les Allemands, contre les Alliés, mais en pratique c'était les Alliés qui venaient. Donc il y avait une vraie bataille, des centaines de morts des deux côtés, une bataille qui durait 3 jours. Au Maroc, c'était plus court. C'est plus court son âge.
Puis il se trouve que l'amiral Darlan, qui était là par hasard à Alger, a finalement est passé du côté des Américains, et toute cette armée a fini par se rendre, et puis même par se battre bientôt aux côtés des Américains. En métropole, il y a eu l'invasion de la zone non occupée par l'armée allemande, qui voulait essayer d'empêcher un débarquement en Provence, au cas où il y en aurait un, après le débarquement en Afrique du Nord. La flotte qui était à Toulon, en vertu de la politique de neutralité, va se saborder de manière à ne pas être utilisé ni par les Anglais ou par les Alliés ni par les Allemands. Enfin bref, c'était la fin de l'armée de l'armistice dissoute par Pétain à la demande des Allemands le 27 novembre 1942.
Le maréchal de France, commandant en chef, aux officiers, sous-officiers, soldats et marins des armées de terre, de mer et de l'air. Vous qui êtes venus à l'armée dans un mouvement d'abnégation, vous subissez aujourd'hui une épreuve qui retentit douloureusement dans mon âme de soldat. La France gardera le souvenir et le culte de vos régiments dissous et de vos navires disparus. Elle ne laissera pas périr vos traditions de gloire. En saluant vos drapeaux, vos étendards et vos pavillons, je vous demande de garder intacte dans votre cœur la devise qu'ils portent dans leurs plis, honneur et patrie. La France ne meurt pas. Signé Philippe Pétain.
C'était un communiqué donc lu à la radio de Vichy en 1942, la dissolution de l'armée d'armistice. Robert Paxton, à ce moment-là, il ne reste plus d'armée française, sauf celle qui se trouvait justement en Afrique du Nord.
Oui, il restait quand même l'armée de l'Afrique, 120 000 hommes, qui, après une semaine d'hésitation, après l'occupation totale de la France, ils n'avaient plus rien à protéger, donc ils sont alliés à la guerre contre Hitler. Mmh. Mais en métropole, il ne restait rien. Le maréchal Pétain voulait rétablir un régiment symbolique, mais ça, c'était rien.
C'est bien que beaucoup d'officiers de l'armée de métropole, une fois qu'elle a été dissoute, sont partis par l'Espagne pour rejoindre justement cette armée d'Afrique et qui vont se battre. Ils vont se battre. On va la retrouver cette armée dans la campagne d'Italie avec le général et futur maréchal Juin, qui vont se battre au débarquement en Provence avec Delattre, qui a quitté aussi la France occupée pour rejoindre le camp des Alliés. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que, au fond, c'est cette armée d'Afrique qui va justement rester à ce moment-là.
Oui, absolument. Il y avait les officiers de carrière étaient devant un choix très compliqué, très pénible. Soit on obéit aux ordres de Pétain, soit on suit le général de Gaulle ou le général Giraud. Encore un, un choix. Mais finalement, l'armée de l'Afrique du Nord, armée par les Américains, s'est battue très très bien en Italie et a fait un débarquement en Provence en août 1944. Et ils ont battu très bien contre les Allemands jusqu'en 45.
Et avec le général Delattre qui débarque en Provence, et c'est même lui qui d'ailleurs en 1945 va être envoyé par le général de Gaulle pour signer pour le compte de la France les conditions de la capitulation allemande. Le général Delattre qu'on va retrouver comme beaucoup d'anciens officiers de cette armée d'armistice dans la guerre d'Indochine qui va suivre la Deuxième Guerre mondiale. En fait, on a l'impression que cette armée d'armistice, la plupart des officiers de la Quatrième République viennent de cette armée d'armistice, Robert Paxton.
Absolument, l'armée de l'armistice constitue le tronc principal de l'armée de l'après-guerre, du point de vue numérique surtout. Il y avait bien sûr des officiers gaullistes relativement peu nombreux et des officiers FIFI, Force Française de l'Intérieur, aussi relativement peu nombreux, mais le grand nombre ce sont les anciens officiers de l'armée de l'armistice, comme le général Delattre qui était très maréchaliste, qui aimait beaucoup ce qu'il faisait pour la formation des jeunes, mais quand même il est allé en Afrique du Nord. D'autres, comme le général de la Porte du Thé, dont vous avez parlé à la tête des chantiers de jeunesse, il était en Afrique du Nord au moment du débarquement. Il est revenu en France pour prêcher l'obéissance à ces jeunes.
Merci Robert Paxton. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de L'armée de Vichy, le corps des officiers français 1940-1944, un livre qui vient de paraître, c'est une réédition je crois, qui vient de paraître chez Talendier. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la période de l'occupation en France, dont La France de Vichy, publié en 1973 et réédité au Seuil en 1999, et puis également Vichy et les Juifs, un livre écrit en collaboration avec Michael Marus, publié chez LGF. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Benjamin de la Gâtinais, documentation et archivina Claire Destacan, Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Dominique Costa.
Une émission de Patrice Gélinet.
Le programme de la semaine prochaine, lundi, une des villes les plus fascinantes du monde, Shanghai. Mardi, la police pendant la révolution. Mercredi, l'assassinat de Raspoutine. Jeudi, le général.